Bienvenue à un tout nouvel épisode du podcast Tout simplement, un balado où l'on parle de la vie quotidienne après un cancer du sein. Mon nom est Geneviève Patry, présidente et fondatrice de Simplement Moi, et je suis comme toujours accompagnée de mon amie, ma complice, mon acolyte, Julie Therrien, qui est aussi survivante du cancer du sein. Salut Julie!
Bonjour Geneviève!
Allô! Aujourd'hui, pour le podcast, on va parler d'un sujet très particulier, en fait, d'un type de chirurgie que les gens connaissent vraiment moins, la chirurgie prophylactique. Qu'est-ce que ça mange en hiver? On va tout vous dire ça dans quelques instants. C'est une chirurgie qui est plus rare. Donc, on va en discuter aujourd'hui, Julie, parce que je pense que c'est important qu'on puisse parler des statistiques. C'est quoi ce type de chirurgie-là? Qui va avoir recours à ce type de chirurgie-là? Donc, aujourd'hui, on va avoir un invité tout spécial qui s'appelle Isabelle Vaillancourt. Isabelle, je l'ai eue comme cliente il y a 2 ans et elle nous a fait l'honneur de venir sur le podcast pour parler de son expérience. Puis, elle est dans les très rares qui ont eu recours à ce chirurgie-là. Donc, voilà, ça va être notre sujet d'aujourd'hui. Le podcast est présenté par Simplement Moi. Ma boutique, et oui, qui est une boutique de produits post-mastectomie située à Laval, à Fabreville-Laval le plus précisément. C'est une boutique où l'on trouve, tous les produits suite à une chirurgie mammaire, suite au cancer du sein, autant des prothèses mammaires externes, maillot de bain, oui, soutien-gorge, les soutiens-gorge de compression, on a les foulards de chimiothérapie. En fait, on a tout ce qui est nécessaire suite à une chirurgie mammaire pour le confort, pour retrouver une féminité. Donc, j'accueille chaque cliente individuellement à ma boutique avec les accompagnateurs, en fait. C'est vraiment des rendez-vous privés parce que chacune a des cheminements très différents. Donc, pour moi, c'est vraiment important. On va offrir aussi le service à domicile pour celles qui, soit qui n'ont pas de voiture ou bien que suite à la maladie, la chimiothérapie, sont peut-être plus fatiguées ou ça ne leur tente pas nécessairement de se déplacer, sont après une chirurgie, je me déplace à domicile. Donc, pour connaître les régions desservies, simplement vous référez à mon site web au www.simplementmoi.com pour y retrouver toutes les régions alentour en fait de Laval là, que je me déplace. Et Simplement Moi, c'est aussi une boutique en ligne parce qu'on sait depuis la pandémie, on commande plus via Internet ou bien si vous demeurez à l'extérieur, que c'est plus difficile de vous rendre à une boutique spécialisée parce qu'on n'est pas, des tonnes, hein, Julie, une boutique là, qui est spécialisée vraiment dans les produits post-mastectomie. Alors, vous pouvez commander en ligne. Et pour celles qui écoutent le podcast, ben on offre un petit cadeau pour nos clientes. On offre quoi, Julie, avec notre boutique en ligne?
Oui, en fait, Geneviève, on a un code promotionnel de 15% de rabais pour la boutique en ligne. Alors, le code à utiliser, c'est le mot SEIN, S-E-I-N, 15, pour 15% de rabais sur la boutique en ligne www.simplementmoi.com.
Fait que voilà. Fait qu'on va, on commence ça, Julie.
Bien sûr!
Bon podcast! Bien, bonjour les filles! Salut Julie, salut Isabelle!
Bonjour!
Écoute, d'emblée, en introduction, je t'ai présenté Isabelle. Merci. Merci d'être venue sur le podcast pour parler de ton expérience. Aujourd'hui, comme je mentionnais, on parle de la chirurgie prophylactique que tu as vécue, qui est une chirurgie, en fait, qui est très peu connue. Je vais le dire très honnêtement, en 10 ans que j'ai mon entreprise, tu es ma seule.
Est-ce
que tu es toujours infirmière?
Oui, je suis infirmière praticienne.
En plus, oui. Fait que, en fait, le domaine médical, tu le connais en
je
plus.
Je connaissais ça, mais pas la prophylaxie.
Non,
de la mastectomie, non.
Fait que tant qu'on ne le vit pas, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on connaît. En fait, on souhaite ne pas le vivre non plus puis de ne pas le connaître, mais quand on le connaît nécessairement, c'est quelqu'un l'a vécu ou on l'a vécu ou on va le vivre, peu importe. Mais à tout le moins, avant même qu'on parle de ton histoire, parce que je la trouve vraiment intéressante, nous, on s'est connus à travers un rendez-vous chez toi. Julie, j'aimerais qu'on parle vraiment... Ben en fait, peux-tu nous décrire c'est quoi? On va démystifier c'est quoi là, la chirurgie prophylactique, parce que ça a l'air d'un nom très... En tout cas, au Scrabble, c'est excellent. Le Y vaut plein de points. Ouais. Fait que...
En fait, oui, Geneviève, puis j'ai fait des recherches parce que moi non plus, je le connaissais pas. Donc, j'ai dû regarder ça. Puis, dans le fond, prophylactique, ça veut dire par prévention, tout simplement. Hein. Fait que c'est une chirurgie qui est pratiquée pour prévenir, dans le fond, l'apparition ou l'aggravation d'un cancer. Contrairement aux autres traitements qui sont curatifs, qui visent à guérir une maladie. Donc, celui-là, on le fait vraiment... par prévention.
Avant qu'il arrive.
Avant.
Habituellement, ça, c'est, il est déjà là.
C'est ça. Okay. Où il va se développer. Hein, on va en parler tantôt. Mais prophylaxie aussi veut dire, vient du mot grec qui dit garantir. Donc, ça vous garantit que la prévention va être vraiment de mise là, par rapport à la situation. Donc, quand on parle de mastectomie prophylactique, on dit que la femme n'a pas encore développé la maladie. Donc, ça vient avant le diagnostic. Et puis, il y a des mesures de prévention là, qui sont faites. Puis, habituellement, c'est la mutation BRCA1 ou BRCA2. Il y en a d'autres aussi, mais qui sont la cause hein, de ça.
Donc, qui est un gène, en
qui
fait.
Oui, c'est ça, qui est une mutation. Mmh. Puis, les femmes bien, sont souvent testées dès l'âge de 30 ans environ pour démystifier ça, surtout si elles en ont eu dans leur famille, s'il y a eu des antécédents. Et dans les recherches que j'ai trouvées, Geneviève, souvent, c'est la sœur qui a été diagnostiqué.
Comme dans mon cas.
Dans ton cas. Hein? Et puis, c'est vraiment ça qui fait que l'autre personne, la sœur la plus jeune, décide de faire tout de suite le dépistage pour avoir la réponse si elle est porteuse ou pas. Et puis, tout ça passe dans la trentaine, habituellement, selon les statistiques.
C'est quand même jeune, hein? 30 ans. Tu sais, les gens souvent vont penser qu'un cancer du sein, moi, ça, j'en entends souvent parler, que souvent, ben c'est des personnes âgées qui ont ça. Mm-hmm. Mais non, de plus en plus, un cancer du sein ou une prédisposition, en fait, de plus en plus, les femmes sont jeunes, là. Puis c'est de plus en plus agressif. Hein, tu sais, les hormones sont là, tout ça, fait que c'est faux de croire que c'est juste des femmes âgées, fait que de là qu'il faut vraiment intervenir rapidement, en tout moins quand on a le gène encore plus. Là,
Ben oui, parce que selon ce que j'ai lu, Geneviève, quand on est porteur du gène, ben, on est sûr presque là, de le développer dans notre vie. On ne sait pas à quel moment, on ne sait pas quand, comment, mais ça va faire partie de notre histoire. Donc, c'est un peu pour ça, j'imagine, que les gens, les femmes prennent des décisions par rapport à ça. Je ne sais pas, dans ton cas, Isabelle, si ça s'est présenté comme ça, mais...
Moi, c'était certain que j'allais me faire tester parce que ma sœur, elle venait d'avoir un cancer triple négatif là, du sein inflammatoire très agressif. Elle avait 37 ans, donc elle était très, très jeune. Puis, on n'avait aucune idée de nos antécédents familiaux dans ce temps-là. On savait que nos grands-parents étaient morts du cancer jeune. Puis là, c'est en faisant l'arbre généalogique que le finalement, un grand-père qui est mort du cancer du pancréas, la grand-mère était morte du cancer du sein. Okay. Fait que finalement, on ne sait même pas si ça vient de la grand-mère ou du grand-père.
Ça vient d'une branche.
Ouais. Ça vient d'une des deux branches, puis on ne le saura peut-être jamais. On ne le saura jamais.
En fait. Non, c'est ça.
Fait que moi, c'était clair que j'allais me faire tester à ce moment-là. Puis j'étais, en fait, puis quand elle a commencé ses traitements, puis quand c'était moi le temps de me faire dépister, j'étais enceinte. Fait que pour moi, c'était sûr que j'allais me faire dépister pour voir si j'avais le gène. J'avais 50% de chance de l'avoir. Et voilà, c'est ça, j'ai un BRCA2.
Fait qu'en fait, si je comprends bien, l'élément déclencheur, parce qu'en fait, pour aller subir un test, pour aller suivre un test de détection, si on est porteur de gène, on se lève pas un matin pour se dire, je vais aller suivre un test en cas que. En fait, toi, ton élément déclencheur, si je comprends bien, ça a été le cancer du sein de ta sœur.
Tout à fait, qui me mettait quand même à risque. J'avais 50% de chance, en fait, de l'avoir.
Vu 50, ma sœur, c'est une sur deux, en
fait. Exactement. Fait que pour moi, c'était sûr que j'allais me faire dépister.
Tu t'es pas posé la question, Isabelle, t'as dit, moi, j'y vais, puis je veux savoir.
C'était certain que j'y allais, surtout avec l'agressivité du cancer de ma sœur. Pour moi, c'était un no-brainer. C'est certain que j'allais me faire tester.
En fait, j'imagine, ta sœur, t'as vu toutes les... Est-ce que tu l'accompagnais? Est-ce que t'as vu toutes les étapes?
Oui, on est très, très proches. Fait que j'ai vraiment vu toute l'évolution de l'apprentissage, de son diagnostic, tous ses traitements de chimio, de radio, sa mastectomie, fait qu'on a vécu ça tout ensemble.
Tu sais. OK. Fait que toi, tu savais d'avance c'était quoi. Fait que tu sais, en savant d'avance qu'est-ce qui peut arriver, je pense qu'au niveau du choix, Il est peut-être plus facile à prendre.
Pour moi, il était plus facile. Okay. Que comparativement, supposons une jeune qui veut se faire tester, je ne sais pas, un parent qui a eu le cancer du sein, mais plus tard dans sa vie, qu'elle a juste 25 ans, la question peut-être se pose. Beaucoup oui. plus que moi qui a fait juste, regarde, testez-moi right away.
Oui, je veux savoir. Exact.
Mais tu sais, quelqu'un de plus jeune, des fois, c'est moins évident quelle décision qu'on veut prendre, puis quand on veut se faire tester aussi.
Mm. Oui, puis en fait aussi, est-ce que quand que tu... Parce que c'est une prise de sang, hein, le test pour savoir si tu as un gène de mutation, c'est une prise de sang. Est-ce que... quand tu as eu ton résultat, quand ton médecin t'a annoncé que tu étais porteuse du gène, est-ce qu'il te donne un pourcentage? Là, c'est selon les études, en fait, c'est entre 50 et...
Ça varie tellement selon les études. Moi, okay. il m'avait dit entre 40 et 80
OK.
Puis je l'ai su lors d'un appel téléphonique. En fait, c'était un message, moi, sur mon répondeur. Okay.
Fait que finalement, tu l'as pris par message, finalement.
Oui.
Un message vocal.
C'est ça. Puis en fait, je me faisais tester pour d'autres gènes par rapport à mon enfant aussi. Fait que je pense qu'il était juste content d'apprendre que mon enfant allait être correct.
Okay.
Avec d'autres gènes qui testaient. Puis après ça, il a dit « Oui, aussi, je veux te dire que tu as le BRCA, finalement. »
OK, finalement. By the way.
C'est by the way.
Tu as le gène.
Toute une nouvelle.
Mais toi qui es infirmière, est-ce que tu savais ce que ça voulait dire?
Ah oh, oui, oui. Puis avec qu'est-ce que ma soeur avait passé au travers, c'est certain que je savais un peu dans quoi je m'embarquais, puis que j'allais avoir la mastectomie prophylactique. T'sais, pour moi, les décisions étaient déjà un peu prises.
OK. Fait ouais. que finalement, dans ta tête, c'était un cheminement qui s'est fait naturellement, si on veut.
Les options, Isabelle, parce que, pardon, dans ce que j'ai lu, 20 % des femmes vont décider de faire l'opération puis vont demander la reconstruction immédiate par choix, là. Et puis, c'est souvent le triple négatif, il y a un cancer qui est relié à ça, comme tu disais pour ta sœur. Fait que c'est très agressif, tout ça. Fait que les gens disent, on va le faire tout de suite puis on va enlever ça, là, si je peux dire ça comme ça. Moi, c'est le même que j'appelle ça. Là, on va enlever ça puis on va remettre d'autres choses. Puis au moins, ma vie va continuer, va bien aller. Toi, comment tu l'as pris face à tout ça?
Je pensais faire la reconstruction. Ma sœur, elle avait eu la reconstruction, puis ça s'est bien passé. Fait qu'elle était vraiment quand même chanceuse. Elle a eu un abcès, mais c'est toutes des choses qui se sont quand même gérées. Puis un abcès après un cancer, c'est pas si pire.
Non,
ça passait. Puis moi, dans le fond, j'ai juste attendu jusqu'à la fin de mon allaitement parce que ça me protégeait quand même contre le cancer le temps que j'allaitais. Puis on m'avait dit quand même d'arrêter une à deux semaines avant. J'ai été jusqu'à la veille. En fait, que j'ai allaité avant de passer à ma mastectomie.
Oui, parce que tu l'as appris pendant que tu étais enceinte. Je sais pas si, j'ai perdu le fil, je sais pas si tu l'avais mentionné tantôt, mais c'est vraiment pendant que tu étais enceinte que tu as appris.
Oui, tu sais. Fait que j'étais hormonale, on s'entend.
Ben oui, déjà, en plus, fait que déjà, c'est un choc, le flot d'émotions, ouais. Il a dû tout...
C'était pas évident. Mais j'étais contente, pareil, d'allaiter mon enfant, puis je l'ai allaité jusqu'à tard, elle avait quasiment 15 mois.
Okay.
Juste parce que je savais à quel point j'étais comme, mon Dieu, mes seins remplissent une fonction, fait qu'on va le faire jusqu'à la fin.
Ben oui.
Mes amis, ça faisait longtemps qu'ils avaient arrêté d'allaiter, tu sais, après 6 mois, 8 mois, puis moi, je l'ai gardé quand même très tard pour...
Ben juste en fait, t'avais peut-être une autre vision.
Ah ouais.
En fait, le côté maternel, le côté, j'imagine, allaitement, il y a peut-être une autre dimension parce que tu savais que là, tu allais perdre des seins naturels, en fait.
Ouais.
Fait que ça devait avoir une toute autre dimension.
Tout à fait.
Julie, j'aimerais ça te sortir des statistiques.
Oui.
J'aimerais ça que, parce que moi, j'adore les statistiques. J'adore savoir un peu ce qu'il y en est. Puis je pense que vu que les gens connaissent un peu moins, je trouve que c'est important qu'on regarde ça.
Tout à fait, Geneviève. En fait, ce que j'ai lu, c'est qu'il y a 25% des femmes atteintes de cancer qui ont des antécédents familiaux, donc qui se trouvent dans la catégorie de ce qu'on parle avec Isabelle aujourd'hui. De ça, 10%, c'est de façon héréditaire, c'est sûr, par rapport à la famille. Et le facteur génétique, là, vraiment, qui est un risque très élevé, là, on parle des pourcentages élevés BRCA 1 et 2, c'est de 2 à 5 des cancers qui sont reliés par rapport à ça. Fait que, oui, c'est gros, mais en même temps, c'est un petit profil là, de gens qui vont se retrouver là-dedans. Ça évite souvent les cancers hormonodépendants, de ce que j'ai lu. Je connaîtrai pas la réponse scientifique par rapport à ça, Geneviève, mais ça serait vraiment plus le triple négatif, comme je disais tantôt. Puis la plupart des femmes qui vont se faire dépister, qui ont la réponse, qui sont porteuses, ben, vont décider de faire la mastectomie prophylactique avec reconstruction immédiate, selon les statistiques du Québec. et puis ça évite tous les risques de récidive, toutes les complications. Dans le fond, la femme, oui, perd un élément de son corps, mais peut reprendre sa vie en main, si on peut dire ça comme ça. Je l'ai pas vécu, mais j'ai fait le test BRCA pour savoir, parce que...
Si t'étais porteuse toi-même du genre.
Exactement. C'est un test qu'on fait, tout ça, qui est envoyé aux États-Unis, si je me trompe pas, que les analyses sont faites, qui est très coûteux. Donc, les médecins le demandent pas d'emblée ou le suggèrent pas. Moi, je l'ai demandé. Alors, quand on le demande à notre médecin, ben, de ce que j'ai compris, ils sont obligés de nous donner la prescription pour y aller, pour aller voir au fond des choses. Mais ceci étant dit, faut vouloir le savoir. Moi, c'était pas hormonodépendant, c'était pas génétique, je connaissais pas dans ma famille ou quoi que ce soit. Mais j'avais quand même cette inquiétude-là, surtout pour le volet récidive, on entend parler par rapport à ça. Donc, je l'ai demandé à mon médecin, puis il a acquiescé à ma demande et j'ai fait le test. Moi, à l'époque, c'était salivaire. Je sais pas, il peut avoir sanguin, salivaire, mais moi, c'était salivaire. Puis, j'avais le quand même le résultat assez rapidement. Mais moi aussi, c'était par téléphone. Donc, tu sais, t'es dans ta voiture, tu reçois l'appel, tu prends l'appel, mais tu dis « allô », tu sais, tu sais pas qui t'appelle. Puis là, « oui, c'est pour votre résultat. Oui, je suis mieux de m'arrêter. »
Faut-tu que je me stationne?
Tu sais, ça a été ça mon réflexe. Finalement, elle a dit rapidement « tout est correct, vous êtes pas porteur selon les mutations qu'on a validées, parce qu'il y en a plusieurs aussi. Mm-hmm. Donc, il nous expliquait aussi, là, quand je suis allée pour faire le test, tout ce qu'on pouvait dépister, puis ce qu'on pouvait moins dépister pour cadrer la recherche et tout ça. Mais, somme toute, moi, ça m'a soulagée de savoir que j'étais pas porteuse, mais j'ai quand même eu la décision plus tard d'enlever l'autre sein puis de faire la double mastectomie. Fait que, chacun a son parcours, mais au moins, je pense que ça donne des bonnes indications.
Mais toi aussi, un peu... Même si c'est pas le même type de cancer, pas le même type de chirurgie, toi aussi, Julie, tu l'as enlevé en prévention. Ça tentait pas de retourner encore. Là, tu as eu deux chimios. Tu sais, de retourner encore. Fait que tu l'as. Au même titre que Isabelle l'a fait pour ça, pour éviter d'aller en chimio. En fait, ça a été préventif aussi dans ton cas pour l'autre sein parce qu'il n'était pas atteint.
Ça a été une décision, j'imagine. Ouais. On a eu un même processus. Hein, cachera pas, là. On se dit, on va les perdre, on les aura plus, pourquoi, moi, Mais en même temps, ben, pour moi, ça a été, ben, je signe une garantie en quelque part, même s'il reste un petit risque, là, on s'entend, là, c'est 1%, là, après, pour lequel je pourrais développer éventuellement un autre cancer, mais je me mettais 99% des chances de mon côté. Moi, c'est tout le temps ça que j'ai dit, je vais regarder le verre plein au lieu de la moitié vide. Puis, par contre, il y a quand même des suivis dans mon cas. Je sais pas dans ton cas, Geneviève. Geneviève. Allô, Geneviève?
Ben, oui, on se regarde. Ben,
c'est ça. Isabelle, est-ce que toi, tu as des suivis? Qu'est-ce qu'il y en est pour la suite des choses?
En fait, c'est assez encourageant au niveau des seins. C'est sûr que le BRCA2, je suis à risque de d'autres cancers, mais pour les seins, mon risque revient moins élevé que la population générale, les femmes en général.
Okay.
Dans le fond, j'ai plus de mastectomie, plus d'échographie. Fait que c'est un suivi plus si je développe quelque chose, mais c'est certain qu'on reste à risque avec ce 1%.
Oui.
Qui est peut-être même moins dans les faits que ça. Là, on dit 1%, je pense que c'est même moins élevé que ça. Fait que c'est sûr, si j'ai des anomalies ou quoi que ce soit, ben je vais aller voir mon médecin, c'est certain. Mais pour l'instant, moi, ma mastectomie a assez bien passé, puis la reconstruction aussi. Fait que j'ai un suivi là, annuel, puis ça se peut qu'à un moment donné même que j'en ai plus.
Okay,
fait que si tout va bien, fait que c'est au niveau là, des seins, c'était pas mal l'approche la plus sécuritaire là, que je peux... que je peux avoir.
Puis tantôt, Isabelle, on parlait un peu du processus décisionnel, en fait. Et est-ce que... Bon, c'est sûr que le fait d'avoir une petite cocotte très jeune a dû peser beaucoup dans la balance.
Ouais.
Est-ce que à travers ça, tu as dû faire les pour et les contre? Parce qu'il ne faut pas se leurrer. On décide de faire une chirurgie, mais on n'a rien. En fait, c'est qu'on sait qu'il y a des risques, mais il y a tout le temps, j'imagine, je ne l'ai jamais vécu, mais est-ce que dans la tête, il y a comme, oui, mais ça se peut que je ne l'aille jamais, puis je vais peut-être enlever mes seins, pas pour rien, mais tu sais, je ne sais pas comment bien l'exprimer, mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ah, oh, ben je vais peut-être juste me faire suivre, puis je vais voir, je vais peut-être attendre que ma fille grandisse un peu. Puis, ça a comme balancé une manière de dire, « Oh non, je ne prendrai pas le risque de, puis je vais y aller à. » Parce que j'imagine, c'est un peu, comme je disais avant même qu'on fasse le podcast, c'est comme enlever un membre
qui est encore sain,
qui est encore sain, bon, qui n'a rien, que tout est beau, puis... Mais de l'enlever d'avance, ouais, c'est ça doit pas être facile. J'ai jamais vécu ce type de décision-là, mais moi-même, je pense que je devrais masser pour me faire les pour, les contre, puis... Mm. Tu sais, c'est une décision qui se prend pas à la légère, là, quand même.
Tout à fait. Puis c'est drôle, puis c'est probablement ce que tu décris, c'est habituellement ce qu'on devrait faire, puis comment les gens réfléchissent en général, quoique j'ai pas connu quelqu'un d'autre qui avait la même chose à faire, mais mes amis, ils s'assoyaient devant moi, puis étaient comme, bien là, c'est une liste des pour et des contre. Je dis, non, je veux qu'on les enlève vite, le plus vite possible. Fait que moi, c'était tellement clair. Ma soeur, elle vivait son cancer. On a failli la perdre. C'était super agressif. Là, j'avais mon enfant. Il fallait que je m'en occupe. En plus, je me séparais à l'époque. Fait que, bref, tout ça était...
Tout est arrivé.
J'étais comme, ma fille a besoin de moi. Puis là, ben c'est juste ça que ça prend, mais ça va être ça. Fait que pour moi, ça a toujours été d'une clarté...
Absolue,
ce qui est vraiment circonstanciel. Si je l'avais appris à 25 ans, hey, je m'en serais posé des questions, puis là, je l'aurais fait ma liste.
Ouais,
je me serais assis, puis j'aurais dit, hey, là, combien de temps je peux attendre encore? Je pense que j'aurais essayé de bargainer un peu là, pour gagner du temps, pour vraiment repousser ça le plus possible. Puis même là, j'étais la dernière patiente opérée avant le délestage à cause
du COVID. Oui,
j'étais la dernière patiente opérée au J-Wish. Puis là, était comme, est-ce que vous voulez toujours la faire? Puis là, je dis, regarde, je suis déjà arrivée, là. Je veux que ça se fasse rendu là. Parce que le pire, c'était l'attente de la chirurgie. Fait que c'est le mois avant. Puis ça doit être différent aussi quand on vit le cancer, qu'on veut vraiment que ça parte vite.
Ouais.
Là, j'avais commencé à vraiment dire, oh boy, je trouve que ça arrive vite, tu sais. Mais sinon, moi, la décision a toujours été.
Ça a été très clair. Il n'y a pas eu de...
Mais ça prend quand même beaucoup de courage de le faire, le processus.
Oui.
Isabelle, c'est pas de facile. Dire, j'y vais, je le fais, là. Est-ce que tu as fait honneur à tes seins avant de les perdre? As-tu fait quelque chose de particulier?
En allaitant, bien, bien longtemps.
OK, ça a été ton...
pour moi, c'était un moment merveilleux. Puis en plus, l'allaitement avait été quand même un peu difficile au début, comme tant de femmes. Puis écoute, là, j'en suis venue à bout. Puis après ça, c'était un moment vraiment magnifique avec ma fille. Fait que, je dégustais chaque moment que je l'allaitais. Fait que ça a été, moi, ma façon de
le rendre
hommage. J'ai un ami qui était venu prendre des photos.
Écoute, je pense qu'une femme bien entourée comme ça, là, j'en reviens pas. Elle avait sa petite équipe alentour, là, son ami, son comment il s'appelle?
Philippe.
Super gentil. Il prenait des photos pour y faire un album, un peu souvenir, un peu de toute cette, je trouvais ça vraiment génial, puis écoute, c'est la beauté d'aller à domicile, en fait, c'est que je rencontre un peu l'entourage, puis vraiment, oui, il était là cette journée-là, puis aux petits soins, puis t'es-tu correct, ça appelle, puis...
J'avais une équipe, comme tu dis, puis je pense que ça prend ça, parce que avec mon enfant en plus, fait qu'il fallait quelqu'un qui s'occupe de mon enfant, puis de moi, là.
Elle se faisait garder, je pense.
Chez ma sœur, chez des amis. Après, mon ex-conjoint l'a pris aussi, bien évidemment. Là. Fait que ça a été tout. L'après a été pas facile. Là.
Oh non, c'est super au niveau de la convalescence aussi.
C'était une bonne convalescence. Puis c'est toujours intéressant comment les chirurgiens, des fois, ne savent pas qu'est-ce qui se passe après tant que ça.
en fait, c'est parce que chaque personne est différente. Mais souvent, ils vont dire des puis je sais pas si c'est parce qu'ils pensent ou non, mais ils vont comme dire dans une semaine tu peux jouer au golf. Et moi j'ai une de mes clientes qui m'a dit ça, ben moi j'ai besoin d'un soutien-gorge, je vais aller jouer au golf. Pas sûr, moi. Après une
peut-être
semaine.
Peut-être pas une bonne idée non plus. Oui, il faut bouger, il faut faire notre propre physio en quelque part. On nous donne des exercices à faire, mais de là à faire un sport autre, là, je ne sais pas.
C'est autre chose. Parce que toi, en fait, c'est que tu as eu l'ablation avec reconstruction.
Oui.
Fait que
moi, j'étais un bon mois de convalescence, puis un deux semaines pratiquement couchée. J'avais besoin d'aide pour me lever, pour mes soins de base.
Je me rappelle, ta chambre était dans ton...
Dans le salon. J'avais mon lit d'hôpital. Ça doit dépendre des personnes, mais j'étais quand même quelqu'un de très en forme avant cette chirurgie-là. Ça a changé après, mais avant, j'étais quand même la patiente zéro, là, avec aucune comorbidité, pas de cancer. J'avais vraiment rien, à part que je venais d'accoucher.
Ouais.
Le pas si longtemps. Puis le chirurgien que j'adore, il a sauvé la vie de ma sœur. je vais toujours être en admiration avec cet homme-là, mais le lendemain, lui, il pensait que j'allais être pick and span. Puis deux jours après, que j'allais m'occuper de ma fille.
Puis c'est une chance que je le... En fait, la prendre dans tes bras, à cet âge-là, il nécessite
Impossible. Plus de soins. C'était complètement impossible. Fait que, mais j'étais au courant, je le savais. Fait que quand il m'a dit ça, j'ai dit... Fait que ça s'est bien passé.
Ça fait longtemps que tu n'as pas eu d'enfant. Non,
c'est ça. Mais c'est un risque aussi. On ne peut pas lever des charges. Moi, je me souviens, je pouvais pas aller à l'épicerie. Il y avait des limitations quand même à respecter pour que ça guérisse et qu'il n'y ait pas de complications non plus.
Puis toi, c'est ton excuse-moi, si je me rappelle bien, ta chirurgie reconstructive, tu l'as eu de quelle façon? Parce qu'on peut l'avoir de différentes façons. Là.
C'était par-dessus le muscle. Fait que c'est sûr que ma convalescence était plus courte.
En fait, c'est un implant.
J'ai eu un implant de silicone.
OK.
Puis c'est ça, c'était par-dessus le muscle. Fait que quand c'est en dessous du muscle, comme c'est pratiqué beaucoup à travers le monde, ça avait quand même plus d'implications, puis c'est beaucoup plus douloureux, ça a l'air. Puis je peux même pas m'imaginer, ça peut être quoi plus douloureux que ça. C'est très douloureux, déjà, à la base. Mais avec la prothèse par-dessus le muscle, franchement, ça a super bien été.
Souvent, Geneviève, les types de mutations BRCA1 et 2 vient aussi la question de
l'ovariectomie. On a de la misère avec ce mot-là.
Vraiment.
Je me suis pratiquée. L'ovariectomie qui est intimement reliée.
Oui. Est-ce que, ma question pour toi, Isabelle, est-ce que toi, tu as eu à faire ce choix-là ou comment?
Oui. En fait, au début, on me disait à 40 ans, c'était pas mal le range. Puis là, c'était repoussé à 42 avec les études récentes. Fait qu'on me la recommande. Okay. Je pense que les statistiques, là, les dernières que j'avais vues, c'est que j'ai 30 à 50 % de chances de l'avoir.
Un cancer de l'ovaire.
Oui. OK.
Ça se rajoute au risque d'avoir un cancer du sein.
C'est ça. Le cancer du pancréas aussi, parce que mon grand-père l'a eu. Fait que là, il faut que j'aie des suivis en gastro-entérologie. Fait que là, je suis à prendre ma décision si je vais avoir l'ovarectomie. Probablement à 42 ans, oui. Je vais voir aussi si
le top, présentement,
38
ans.
C'est ça? Okay. Oui.
Oui, j'ai 38 ans.
Fait que ça me laisse encore du temps, là. Fait que je crois que je vais la faire. C'est juste pour être... tant qu'à être rendu là, puis que ça se soit bien passé. Je suis un peu dans la méthode préventive. Là, mais ça, j'ai plus fait ma liste.
Oui, ça doit. Hein?
Parce que ma sœur ne l'a pas eu. Elle a eu la chirurgie, par exemple, préventive.
OK.
Elle l'a fait d'emblée. Elle a dit, là, enlevez-moi tout, qu'est-ce que vous pouvez, que j'ai pas de cancer.
Okay.
Je la comprends. Moi, dans mon cas, là, c'est plus, il faut que je regarde. Si je voulais d'autres enfants.
C'est ça, je m'en allais dire. Ouais. Parce que ça, en fait, enlever les seins, ça ne t'empêche pas nécessairement d'avoir une deuxième maternité ou un deuxième enfant. Mais là, l'ovariectomie, on met un trait sur la maternité, on met un trait sur... je ne sais pas si tu as un nouveau conjoint ou si...
Pas pour l'instant, on ne sait jamais.
Mais on sait que tu es encore jeune, mais c'est des points importants qui... Tu sais, nous, en tant que femmes, puis de plus en plus, les femmes, on a nos enfants tard.
De par nos carrières,
oui, c'est ça exactement. Fait que c'est un point vraiment important à la liste, comme on dit, les pauvres.
Oui, là, je l'ai fait ma liste. Puis je me dis 42 ans, bon là, si j'ai pas eu un autre enfant de ce temps-là, c'est peut-être que j'en aurais pas. Fait que puis je me dis au pire, je reporte d'un an. Fait que tu sais, là, je pense que je vais plus jouer avec le temps puis avec mes options rendues là. Comparativement à la mastectomie, comme je dis, là, c'était d'une clarté absolue. Mais là, ça a d'autres désavantages aussi, puis ça me met en ménopause aussi précoce.
Ben oui. Ben la chimio ou d'autres choses le fait aussi, là, c'est mon cas, mais c'est sûr que ça fait partie de dire j'ai 46 ans puis je suis en ménopause chimique, mais c'est les mêmes
tout à fait.
Effets là, secondaires, si on peut dire comme ça. Est-ce que dans ton cas, Isabelle, tu as la chance de pouvoir consulter pour prendre ta décision actuellement? Est-ce que c'est quelque chose que tu as regardé?
Bonne question. On dirait que juste, il s'est passé tellement de choses, puis j'étais une jeune maman, fait qu'on dirait que il y a comme juste d'autres choses qui ont pris la place dans ma vie, puis là, on dirait que j'ai juste mis ça en hold de prendre des grosses décisions encore. Fait que j'ai pas vraiment consulté. Mais je pense que je vais me rapprocher de cette date-là, je vais le faire. Parce que juste la mastectomie, le mois avant, c'était une période difficile. C'était pas facile l'attendre pour aller là. Puis surtout, les gens comprennent pas pourquoi on prend cette décision-là. Puis ça me tente pas de tout leur expliquer nécessairement ce que je viens de vous dire plus en détail.
Oui, c'est parce qu'on le réexplique. C'est un peu comme notre dernier podcast. On parlait que, tu sais, c'est à répétition, de tout le temps répéter, une année, ça devient comme plus lourd à tout le temps expliquer le pourquoi tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est difficile pour quelqu'un, je pense, de le comprendre, mais c'est des choses vraiment à penser, puis à s'assir, puis à voir, en fait, les choix puis les options, puis peut-être de voir ce que tu veux, toi, en tant que personne,
Mais si je peux te donner un mini conseil, Isabelle, oui, parce dis-moi. Qu'on est toutes différentes. Mais moi, j'ai écrit une lettre, là, vous allez peut-être rire, mais c'est pas grave. J'ai écrit une lettre à mes seins quand je leur ai dit que j'allais les quitter, que j'avais vécu avec eux pendant X années, mais qu'à partir de telle date, j'avais une idée de la date de la chirurgie, que je les remerciais pour tout ce qu'ils m'avaient apporté.
Pour le bon travail.
Ben, écoute, la physionomie, mon fils, etc. Et puis que, ben là, je devais prendre la décision de m'en départir, je peux dire ça comme ça, mais de les laisser partir pour justement passer à autre chose, puis penser à moi aussi, me mettre en priorité, me choisir, puis en santé, parce que le risque, c'est moi, j'aurais pu avoir juste le droit, mais j'ai décidé de faire enlever le gauche aussi, fait que ben pour toutes les bonnes raisons, il y a des femmes qui font pas ce choix-là, puis c'est correct, là. Mais moi, c'était comme toi, c'était clair, il fallait que ça parte, puis tout de suite, le plus vite. Malheureusement, le processus, c'est pas comme ça, parce que on pourrait changer d'idée, tu sais, il pourrait avoir plein de choses, puis c'est correct que c'est ça soit.
Il s'assure que vos choix soient, en fait, un choix éclairé, en
c'est
fait.
C'est ça. Mais quand j'ai écrit ma lettre, puis là, c'était clair, c'était sur papier, c'était, tu sais, je l'ai faite à la main, là, pour. Puis, je l'ai relu, puis une journée, je l'ai présenté à mon médecin.
Ah, oui.
Et quand je lui ai présenté, il a fait « Oh, que je vois que vous êtes décidée et que ben, je vais aller dans votre direction parce que c'est très réfléchi, parce que j'avais eu le temps de faire mon processus à ma façon. »
Oui, mon deuil. C'est un deuil, c'est un deuil d'un membre.
Exact.
Puis que ça soit les seins, puis même si on minimise les ovaires, c'est à l'interne, mais ils ont leur fonction, on s'entend. Je veux dire, les femmes, on est normalement constituées ovaires, on a tout l'utérus, les seins, ça fait partie d'une femme. Fait que chaque côté féminin, chaque membre féminin qu'on enlève, c'est un deuil pour, soit pour la maternité, un deuil physiquement de se voir, même si on a une reconstruction, c'est pas tout le temps pareil comme avant, c'est pas tout le temps, tu sais, on s'entend, j'imagine que ce côté-là, c'est, toi, t'as fait un deuil en faisant la lettre, faire un deuil en même temps.
Puis prendre la décision éclairée, puis c'est là que j'ai décidé, ben soit de prendre des photos avec mon conjoint, tu sais, j'ai fait des petites choses pour moi, pour me dire, regarde, on va garder quand même des souvenirs, on va faire telle chose, puis ça m'a vraiment aidé dans ma réflexion, ma décision, mon cheminement, puis après coup, ben moi, c'est sûr qu'il fallait enlever les mamelons, tout ça, fait que tu sais, il y avait tout le côté sensibilité qui serait plus là, fait que ça m'a permis de faire d'autres démarches, puis de connaître, comme on a parlé dans d'autres podcasts, Geneviève, qu'il y a des tatouages, il y a des choses qui peuvent se faire après,
il y a des solutions.
Ça m'a beaucoup encouragée, puis ça m'a rassurée dans ma décision, dans le fond. Fait que c'est comme ça que j'ai dit, j'y vais, puis ça va être pour le mieux pour moi.
C'est un bon truc. Écoute,
mais c'est bien.
C'est un bon truc, en fait. C'est comme si tu parles à toi-même, puis en fait, si tu fais le processus en écrivant, en fait, tu couches sur papier un peu les émotions aussi que tu as par rapport à cette décision-là aussi. Là,
puis quand j'en avais parlé au médecin, il m'avait dit si tu n'aurais pas été à l'aise avec ta décision, en le relisant la journée d'après, la semaine d'après, le mois d'après, ça aurait été évident. Fait que t'aurais eu ta réponse que tu cherchais de toute façon, tu sais.
Ça s'est auto-répondu un peu à travers tes
exact. Fait que c'est pour ça que quand je lui ai expliqué ce que j'avais fait, ben pour lui, ça le rassurait, puis il a décidé d'accepter.
Puis ça, on parle de conseils, c'est un super bon conseil, Julie, mais toi, en fait, en terminant, quel conseil pourrais-tu donner? Parce que là, on s'entend. Moi, j'ai eu beau faire des recherches sur. Ben, j'ai pas accès au groupe pour les survivants du cancer du sein, mais à force de parler un peu ici et là, il y en a même à travers les groupes, même Julie, que toi tu es, il n'y a pas tant de femmes qui vont subir ou qui ont subi une chirurgie prophylactique. On s'entend, c'est souvent curatif. Comme tu dis, ils l'ont souvent eu, ils ont eu la chirurgie après. Quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui vient d'avoir un résultat positif d'un gène de mutation BRCA1 ou 2, puis qu'elle doit prendre cette décision-là? Est-ce que tu aurais un conseil judicieux, toi qui as passé par là, à leur donner?
Je pense que c'est de se faire confiance, puis se laisser le temps de vivre. Qu'est-ce qu'ils ont à vivre, en fait, quand ils l'apprennent? Puis tout le monde va avoir une opinion. Dans la population générale, tout le monde connaît quelqu'un qui a un cancer du sein, mais de plein de façons. Des fois, c'est à un âge plus avancé, les cancers, des fois, peuvent être moins agressifs. Fait que tout le monde a comme une idée de c'est quoi le cancer du sein, mais c'est tellement hétérogène comme condition. Ça peut être quelque chose de très, très, très agressif, quelque chose qu'on fait une chirurgie, puis qu'après ça, ben, c'est fini. Puis c'est tout aussi dommageant, puis il y a des conséquences. Puis c'est pas du tout pour minimiser, mais il y a un paquet d'expériences. Fait que c'est de se faire confiance. d'aller demander de l'aide, finalement. Puis de chercher, au pire, le monde m'écriront. Je peux l'expliquer comme à ma façon, parce qu'il n'y en a pas des tonnes, tu sais. Puis oui, il y a Angelina Jolie.
Ça, on ne l'a pas mentionné, mais c'est vrai. La chirurgie prophylactique, en fait, elle a été un peu mise sur la sellette, je peux dire. Les gens ont un peu appris à savoir un peu c'est quoi, parce qu'Angelina Jolie, il y a quelques années, s'est fait faire une chirurgie prophylactique, qu'on appelle. S'est fait enlever les seins avec reconstruction immédiate parce que sa mère l'avait décédée.
Puis elle avait 37 ans à l'époque. Sa mère avait 56 ans.
Quand même.
Quand elle est décédée. C'est
un peu ça que les gens connaissent en général quand ils entendent parler de chirurgie prophylactique.
Ça l'a mis sa map.
Puis la fille est quand même très jolie.
Oui, c'est ça. Puis
pas juste d'un nom, très connue. Fait que c'est sûr que ça donne une représentation peut-être un peu biaisée de la chose. Oui. Fait que, tu sais, je pense que c'est d'aller chercher de l'aide, de se laisser vivre les émotions, puis la décision nous revient finalement, puis que les gens soient d'accord ou pas d'accord, il faut se
choix.
Faire confiance.
Mmh. C'est votre choix final, peu importe ce que les gens vont dire.
Tout à fait.
Parce qu'il va toujours avoir des opinions divergentes. J'imagine, oui, non, c'est mieux pas.
Ne serait-ce que de savoir est-ce que je veux me faire dépister ou pas, ça commence là, la question aussi. Les gens disent, moi, j'aime mieux pas le savoir. Il y en a d'autres, sinon je veux le savoir pour pouvoir prendre action, mais tu sais, c'est très personnel, c'est propre à chacun. La même chose que les femmes qui l'ont, peut-être qu'ils vont décider ou suggérer à leur fille de faire le test ou pas, à quel âge. Tu sais, c'est toutes des questions aussi qui peuvent venir, en fait, sur le sujet là, par rapport à ça. Fait que, est-ce que toi, tu aurais une opinion là-dessus, Isabelle?
Je pense d'essayer d'aller chercher le plus d'informations possible puis vraiment de respecter comment on se sent. C'est vraiment ça. Puis même
d'écouter,
des fois.
D'écouter notre ressenti. Comme on dit.
Puis des fois, sur les groupes, j'étais sur un groupe de femmes qui ont eu le BRCA1, le BRCA2, puis d'autres gènes aussi reliés.
Il existe des groupes pour ça?
Groupe à l'international. Des fois, il faut faire attention aussi, parce que des fois, c'est les gens, quand ils vont vraiment, vraiment pas bien, qui ont besoin d'aller écrire sur ces pages-là.
Ça pourrait être comme l'effet contraire.
Fait qu'il faut juste faire attention, puis se faire confiance, puis aller chercher, être bien soutenu. Je pense que c'est ça. Puis c'est correct d'être sur ces sites-là. Moi, je l'étais dessus. Puis à un moment donné, là, j'ai décroché un peu. Là, j'ai dit, bon, ça va pas si mal que ça tout le temps.
Ouais,
ça venait me chercher.
C'est ça, mais en fait, faut s'écouter. Balancer. C'est ça. Puis est-ce que, avant qu'on termine le podcast, est-ce que tu m'autorises, en fait, parce que c'est pas connu, parce que je suis convaincue qu'il y en a certaines qui vont peut-être écouter le podcast, qui ont peut-être une amie, c'est peut-être pas elle, mais ils ont peut-être une amie, une collègue, tout ça, qui vont entendre, je vais subir ou j'ai été dépistée, j'ai le gène d'une mutation, peu importe la façon que c'est amené. Est-ce que tu m'autorises à laisser ton courriel, en fait, pour qu'on puisse t'écrire?
Tout à fait, moi, ça me fait plaisir.
L'expérience, je trouve que vu que c'est pas... c'est pas une généralité, on va dire ça comme ça. Puis je pense que le choix, au final, c'est une chirurgie, mais à la base, le choix n'est pas pareil du fait que la maladie n'est pas encore là. Que ça, je pense que tout part de là aussi, tout part avec le choix avec lequel on est confortable de faire. Mais je pense que peut-être tu peux amener des pistes de solutions, puis en fait, des pistes de réflexion plutôt que toi te regarder. Puis c'est sûr que toi, en ayant une petite cocotte d'un an et demi à cette époque-là, ça a eu une influence, mais pour une autre personne, ça va être différent.
Tout à fait.
Mais juste des éclairer, fait que, écoute, je laisserai...
Ça fait vraiment plaisir.
Merci d'être venu, merci d'avoir partagé ton expérience.
Merci à vous
puis
deux.
J'espère que les gens, en fait, ils vont être content, en fait, d'apprendre un peu de ce côté-là. En fait, chaque semaine, on a un nouveau sujet, mais la chirurgie prophylactique, je tenais vraiment à en parler parce que c'est pas commun. Puis, notre podcast, c'est ça, inspirer, informer, fait que ça, on peut donner le maximum d'informations.
Je suis contente que vous en ayez parlé.
Oui!
Parce nous aussi, on est content. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup.
Fait qu'on est content d'avoir quelqu'un pour venir en parler.
avec nous, effectivement. Merci, Isabelle.
C'est un plaisir. Merci beaucoup.
La prochaine, puis on se voit de se revoir, mais dans des plus belles...
Dans d'autres
circonstances. Oui, c'est ça. On fêtera ton autre année de
voilà.
De rémission, oui.
Merci.
Merci.
Bye bye. Bonne journée.